Effectivement, ça fait à peu près, enfin moi, ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet de l'agroforesterie. Donc, je suis pas INRA, mais en fait, je travaille en collaboration avec l'équipe de Christian. Hein, et la spécificité, en fait, d'Agrouf, donc c'est une société coopérative et participative, une SCOP, c'est d'essayer de faire le lien entre la recherche et la partie terrain. Donc, on travaille énormément donc avec les agriculteurs et les techniciens de terrain pour essayer d'améliorer, d'acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est vrai qu'au bout de 25 ans, voilà, j'allais dire, on commence à peine à comprendre un petit peu comment fonctionne l'agroforesterie, parce que forcément on est sur des systèmes qui sont sur du très long terme. Hein. Planter un arbre, vous n'allez pas le récolter en 2 ans, on est sur des systèmes qui seront à peu près de 30, 40, 50, voire 60 ans ou plus. Hein. Et donc ça demande tout un savoir-faire, une expérience, et qu'une personne seule ne peut pas avoir. Hein. Pour moi, il n'existe pas d'expert agroforestier ou d'expert forestier, hein, d'ailleurs, hein, qui est capable de vous dire, ben voilà, dans telle parcelle, il faut planter tel arbre, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis en plus, si vous avez tel type de rotation dans tel type de sol, avec tel type de climat, voilà ce qui va se passer. On est vraiment dans une démarche d'apprentissage et pas du tout de recettes, hein, je dirais, et qui va un peu à l'encontre un petit peu de l'évolution de l'agriculture qu'on a connue depuis les 50 dernières années, puisque comme on a un peu, on a été vers une artificialisation du système de production, hein, en appelant des intrants externes, donc des engrais minéraux, des pesticides pour contrôler, pour essayer d'avoir le risque minimum ou le risque zéro sur la parcelle. Là, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment sur essayer de réduire le risque, mais sur le long terme, essayer de diversifier les productions. Alors juste peut-être, alors je vais vous présenter quelques petites diapos donc pour montrer un peu la diversité des systèmes agroforestiers, les enjeux qu'il y a autour de ces systèmes, et puis quelques idées, quelques propositions qu'on a au travers de nos expériences de terrain avec des associations, mais pas simplement. On travaille donc, comme je disais, avec beaucoup d'agriculteurs dont le métier c'est pas de faire du lobbying, mais dont le métier c'est d'innover et de tester, de se lancer quelquefois dans des choses qui leur coûtent beaucoup et quelquefois ils se cassent les dents, hein, sur des essais qui mettent en place sur leur exploitation. Donc que ça soit quand ils arrêtent le labour ou quand ils plantent des arbres, on ne sait pas trop ce qui va se passer quand on est très peu appuyé en fait par les techniciens ou la recherche développement quoi. Hein. Alors au niveau de la définition de l'agroforesterie, déjà c'est pas simplement des arbres dans les parcelles, mais c'est l'arbre en général dans le système de production agricole. C'est l'arbre donc intraparcellaire, c'est les haies, c'est les bosquets, c'est les prévergers. À partir du moment où il y a une interaction entre l'arbre, la culture et l'animal, donc voilà, on n'oublie pas l'animal hein, bien entendu, eh bien ça fait partie de l'agroforesterie. Alors chez nous, rapidement, donc en France et puis même en Europe, dans les milieux tempérés, un des systèmes les plus connus, ce sont les prévergers. Donc en France, ça a quand même couvert à peu près 1 million d'hectares hein, pendant vers 1900 et quelques. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une centaine de milliers, enfin 100 000 hectares. Quoi, hein. Donc ça a largement régressé. Et ce qui, moi, m'intéresse dans mon travail, c'est justement de bien comprendre pourquoi ça a régressé, quels sont les facteurs. Alors, Christian en a parlé un petit peu, bien entendu, c'est la modernisation de l'agriculture, le remembrement, mais c'est également le fait que, ben, à partir du moment où on a fait appel à des intrants chimiques, on avait moins besoin de la capacité de l'arbre à stimuler la vie biologique, la fertilité biologique des sols. Et de la même manière, avec un fioul bon marché, eh bien, le bois énergie perdait un petit peu de sa valeur, parce que c'était du temps, etc. Mais aujourd'hui, le contexte, je crois qu'il a changé, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis les moyens, la mécanisation aussi, la manière d'exploiter les arbres a changé. Alors, quand on descend vers la Méditerranée, et donc ça fait l'objet de plusieurs études, et notamment enfin, des projets européens, et on a de plus en plus de systèmes agroforestiers. Parce que justement, par rapport à ces questions climatiques, c'est des systèmes qui sont très parfaitement résilients par rapport aux excès de chaleur qu'on peut avoir. Et vous allez en Espagne, en Italie, en Grèce, et puis après, bien entendu, dans les pays du Maghreb, ou dans le Sahel, bien entendu, vous avez beaucoup d'agroforesterie. Alors, avec des systèmes très disparates, hein, d'une région à l'autre. En France, on a finalement des oliviers, on en a. Hein, bon, ils avaient pris un coup avec les gelées de 1950, où on a perdu 90% des oliviers. Mais les associations oliviers-vignes, associations oliviers-blé-dur, c'était quelque chose de très courant. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en Italie, par exemple, les associations oliviers-céréales couvrent à peu près 100 000 hectares. En France, il n'y a que quelques dizaines d'hectares. Donc, ce n'est pas simplement une question de climatique, c'est aussi une question de réglementation. En France, ce n'était pas possible, en Italie, c'était possible. Et pourtant, voilà, l'association, comme l'a dit Christian, avait quand même des enjeux intéressants et que les réglementations françaises n'ont pas reconnu. Alors, comme je disais, dans les systèmes traditionnels, donc, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, pas simplement de bien comprendre pourquoi ils disparaissent, mais aussi pourquoi, aujourd'hui, on a encore des systèmes traditionnels qui sont existants, qui ont survécu malgré l'évolution de l'agriculture. Donc là, par exemple, c'est les noyerés du Dauphiné, qu'on retrouve aussi dans le Périgord, donc avec des associations culture ou animales, hein, donc associées avec des noyers double fin pour du bois et des noix. Et lorsqu'on discute avec tous ces agriculteurs, eh bien déjà, on se rend compte que 90% d'entre eux sont hors la loi, entre guillemets, par rapport aux réglementations. C'est-à-dire que le cadre réglementaire et fiscal et du foncier également ne reconnaît pas ces associations. On est plutôt dans la simplification. Soit vous faites du maïs, soit vous faites des arbres, des vergers ou des prairies. Mais dès qu'on associe, alors là, c'est un peu complexe. Alors, ça a un peu évolué, hein, je reviendrai un peu là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'un point de vue technique. On se rend compte que c'est pas simplement une juxtaposition de l'arbre et de la culture. Les agriculteurs cherchent à tirer parti des interactions entre l'arbre et la culture. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue, effectivement, agroécologique. Alors, juste encore deux autres photos pour montrer jusqu'où on peut aller. Hein. Par exemple, donc ça, c'est une photo donc prise donc en zone sahélienne. C'est une association d'un acacia, l'acacia federbia, le federbia albida, avec du maïs. Et si vous remarquez sur la photo, là, on n'a pas de feuilles. Et en fait, l'acacia, là, ici, en l'occurrence, c'est une légumineuse, et il est ainsi complètement décalé par rapport à celui de la culture. Il va faire ses feuilles en saison sèche, alors qu'en saison des pluies, il n'a pas de feuilles, il fait très peu de compétition au niveau de la lumière. Et pour moi, donc j'ai commencé en fait à travailler sous les tropiques, ça a été un des rares cas où justement, enfin, qui m'a un peu perturbé, où on avait plus de rendement sous les arbres qu'à l'extérieur des arbres. Et donc là, c'est des choses quand même qui sont intéressantes à explorer, y compris pour chez nous. Hein. Même si on n'a pas beaucoup d'arbres légumineuses, on en a quand même quelques-uns, mais en tout cas, on a des processus biochimiques qui peuvent être similaires. Et puis encore un autre exemple pour vous dire jusqu'où on peut aller. Ça, c'est donc les agroforêts qu'on a en Indonésie, mais qu'on retrouve aussi au Brésil, en Guyane ou en Afrique. Et bien sûr, ce type de parcelles, ce sont des agroforêts qui sont construites par l'homme. C'est-à-dire on part de coupes à blanc. Donc voilà, les gens déforestent, entre guillemets, ils font du brûlis, on n'a rien sur le sol, et ils reconstruisent une agroforêt où ils vont associer entre 200 et 300 espèces à l'hectare. Alors vous avez vu dans le film, hein, on est sur du noyer et du blé, donc il y a deux espèces. Déjà, ça paraît compliqué pour notre mentalité un petit peu donc occidentale, mais là, vous imaginez le savoir-faire qu'il faut pour construire sur 100 ans, donc quelquefois sur 2-3 générations d'agriculteurs, des agroforêts qui sont finalement extrêmement rentables, où tout est cultivé, tout est utilisé. Alors, je passe les détails, hein, mais on pourrait en rediscuter. Et donc après, vous avez donc au-delà de ces systèmes traditionnels en France, donc des agriculteurs, je disais, un peu innovants, qui se lancent dans des systèmes qui sont pas tellement, qui sont nouveaux, hein, au regard des pratiques traditionnelles qui associent beaucoup d'arbres fruitiers. Là, ici, on est par exemple chez un agriculteur en Poitou-Charentes qui associe des arbres forestiers avec des céréales sur 60 hectares de son exploitation depuis 35 ans. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est intéressant parce que dans le même temps, il s'est lancé dans un boisement de terres agricoles sans culture la même année avec les mêmes arbres. Et donc, on a un peu cette comparaison possible entre les arbres sans culture et les arbres avec culture et de la même manière des cultures sans arbres. Et par exemple, sur cette parcelle, on a pu mesurer des taux de matière organique il y a une dizaine d'années maintenant de 50% plus élevés au niveau de la culture intercalaire par rapport à la culture pure. De la même manière, on a fait des analyses microbiologiques des sols. On a 2 à 3 fois plus de mycorhizes, des champignons microscopiques. On a 2-3 fois plus dans cette partie intercalaire par rapport à la culture pure. Et ces mycorhizes sont essentiels pour la vitalité des cultures intercalaires que vous avez associées à votre, pour la culture intercalaire tout court, hein, parce que ces champignons vont l'aider à mieux s'alimenter, à mieux résister aux aléas climatiques, à mieux résister aux maladies. Ça, c'est des choses qu'on connaît maintenant assez bien. Un autre agriculteur innovant, donc là, on est en système d'élevage. Eh bien, donc ça, c'est un agriculteur qui s'est lancé il y a 25 ans. Aujourd'hui, ces arbres, il les utilise aussi pour pérenniser son système, pour le rendre plus résilient par rapport aux coups de chaleur qu'on peut avoir aujourd'hui en élevage et qui sont extrêmement importants. Vous allez, donc là, c'est une photo qui est prise dans l'Aude. Vous allez au mois de juin, les prairies sont déjà sèches. En agroforesterie, on a un décalage dans le dessèchement de 2 à 4 semaines, par exemple, sur sa parcelle. Et puis après, en juillet, août, vous voyez, donc il utilise des arbres, donc comme des arbres fourragés. Hein, donc ça, c'est des pratiques qui sont extrêmement anciennes, mais qui reviennent un petit peu au goût du jour. Et lui, il me disait, quand il sort sa tronçonneuse, les moutons, ils cavalent, quoi. Hein, ils arrivent donc pour se mettre sous les arbres. Alors, juste un petit mot donc pour vous montrer un petit peu 2 cas de figure. Donc ça, c'est des photos des années 50. En haut à gauche, donc vous avez un paysage complètement agroforestier, donc une photo aérienne d'une campagne du ministère de l'Agriculture du côté de Nogent-le-Rotrou dans le Perche, aux portes de la Bosse. Vous voyez que c'est un paysage complètement agroforestier, donc là on est sur plusieurs milliers d'hectares. Et souvent on entend dire, bon ben voilà, avant il y avait certainement de l'agroforesterie partout. Effectivement, par exemple dans ces zones-là, oui, et dans des systèmes qui ressemblent un petit peu à ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui. Par contre, en bas à droite, on est sur donc dans les plaines du nord de la France, et là on est sur des sols extrêmement profonds et on n'a pas d'arbres. Donc on n'avait pas forcément des arbres partout. Hein. Donc ça c'est bien une différence à avoir. Par contre, en haut à gauche, l'arbre il avait une fonction d'épuration. On est sur des sols qui étaient quelquefois humides. Et en fait, c'était une manière de valoriser en fait les terres qui étaient sur place, contrairement ici où on était sur des sols fertiles. Alors, voilà l'évolution de ces parcelles qu'on connaît. Alors, c'est une photo aérienne du même endroit, donc du côté de Nogent-le-Rotrou aujourd'hui, donc vous n'avez plus d'arbres. Alors, comment on a fait pour s'en passer? C'est parce qu'aujourd'hui, 95% de ces zones-là sont complètement drainées, donc avec des drains artificiels qui aujourd'hui commencent à montrer un petit peu aussi leurs limites hein, en termes d'érosion, parce que ça entraîne énormément d'éléments fins du sol, et puis aussi parce que l'arbre fertilisant a été remplacé, effectivement, comme je disais tout à l'heure, par des intrants chimiques. Hein. Donc là, aujourd'hui, on fait des céréales, alors qu'avant, on était dans des systèmes bocagers, production fruitière, et puis avec des exploitations de polyculture élevage. Là, on est quasiment que sur du céréalier. Alors la question, c'est, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut replanter? Et même, je dirais, même dans ces zones-là, en bas à droite, est-ce que, voilà, il n'y avait pas d'arbres, mais du coup, est-ce qu'il faut quand même imaginer de l'agroforesterie? Alors, quand on a pris cette photo, les rendements n'étaient pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui. Hein. On était sur des rendements de 6 à 7 fois moins importants qu'aujourd'hui. On ne demande pas du tout la même chose au sol. Et aujourd'hui, ces sols-là sont relativement dégradés, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, du coup, se repose la question de comment refertiliser, sachant que tous ces sols, l'humus d'origine, étaient forestiers. Un autre élément, un autre enjeu dont on a un tout petit peu parlé, c'est le changement climatique. Ici, vous avez l'évolution des rendements de la culture, donc en haut à gauche pour la France, la plupart des cultures, donc blé, maïs, orge et blé dur. Vous voyez que donc, ben justement, dans les années 50, le niveau de rendement était faible, puis donc d'un seul coup, on a eu une augmentation, on a gagné un quintal par hectare et par an hein, avec la modernisation de l'agriculture. Donc c'était un effet très important, effectivement, de la modernisation de l'agriculture. Mais depuis une quinzaine d'années, on a une stagnation des rendements. Et même depuis 4-5 ans, on soupçonne une légère baisse de ces rendements. Et c'est pas quelque chose qui est propre à la France, c'est quelque chose qu'on observe dans toute l'Europe. Donc il y a eu deux rapports d'expertise de l'INRA qui ont essayé de plancher là-dessus. Alors bien entendu, on parle de baisse de fertilité des sols, on parle également de l'impact de la baisse de la biodiversité, qui a aussi un rôle là-dedans, et donc c'est peut-être une combinaison un peu des différents facteurs qui peut expliquer ça. Mais le principal facteur qui a été mis en avant, ça a été le changement climatique, et notamment les hausses de température au printemps qui ont un impact direct sur les rendements des cultures. Aujourd'hui, si vous avez des températures au printemps qui dépassent les 25 degrés, vous avez déjà un impact donc sur votre culture. Et la fréquence des pics de température, et qui dépasse quelquefois 30 à 35 degrés au printemps, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Et c'est le facteur principal donc de cette stagnation des rendements. Donc pour nous, c'est de voir un petit peu, est-ce que en agroforesterie, on va voilà tamponner cet effet. Donc Christian a donné quelques éléments de réponse, on y travaille. Il y a l'effet aussi de l'agroforesterie sur les sols. Donc j'ai donné quelques exemples. Effectivement, l'érosion des sols, c'est un enjeu crucial pour les agriculteurs. Et quand on fait des enquêtes auprès des agriculteurs, ce qui les intéresse dans l'agroforesterie, c'est notamment cette possibilité de régénérer les sols, qu'ils soient conventionnels ou bio, hein, d'ailleurs. Hein. Et du coup, ça nous amène petit à petit à affiner un petit peu nos systèmes de production en agroforesterie. Alors c'est vrai que l'équipe de Christian, donc on travaille ensemble depuis 25 ans, mais tous ces premiers essais qui avaient été mis en place, quelque part ils étaient très forestiers, c'est-à-dire c'était voir un petit peu comment on allait pouvoir produire des arbres, mais à des faibles densités, et donc du coup occuper l'espace avec des animaux ou des cultures. Et là petit à petit on a vraiment changé d'optique, et la question c'est comment produire, d'un point de vue agricole, avec les arbres. Comment l'arbre peut être complémentaire de la production agricole, depuis des systèmes de labour en haut à gauche, de semis direct en haut à droite, et de semis sous couvert, donc en bas à droite. Et donc là, on est bien dans la recherche de la complémentarité de l'arbre par rapport à ces systèmes-là. Donc comment l'arbre va pouvoir décompacter le sol, enrichir le sol en carbone et en azote, parce que l'arbre va recycler une grosse part d'azote, et par le jeu de la litière aérienne et souterraines également. Et pourquoi pas imaginer des systèmes donc un peu plus performants où on va, sur les lignes d'armes, rajouter des essences qu'on va couper, broyer, faire du BRF pour amener au sol, et y compris avec des légumineuses, hein, pourquoi pas. Alors voilà, donc ça c'est des choses qu'on essaye d'innover, donc avec des agriculteurs, notamment dans le réseau base qui s'appelle Biologie Agriculture Sol et Environnement. Donc c'est une association qui regroupe à peu près 1000 agriculteurs et qui sont pionniers un petit peu dans toutes ces histoires de carbone du sol, de couverture du sol, et donc aujourd'hui d'agroforesterie. Ça, c'est le profil racinaire qu'on a en agroforesterie, qui a été vraiment mis en évidence par l'équipe de Christian, mais aussi par des équipes au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis. C'est de montrer à quel point l'impact de la culture a été fort sur l'enracinement des arbres, donc, et qui oblige l'arbre à s'enraciner en profondeur. Alors, on est dans des conditions de sol profond, mais ça a des impacts très importants, notamment sur donc, le bilan carbone, mais aussi le bilan azote. Au bout d'une dizaine d'années, on a quasiment plus de fuite d'azote dans le système. Et c'est quelque chose qui intéresse donc forcément les agences de l'eau. On a vu tout à l'heure les enjeux. Par exemple, aujourd'hui, la ville de Paris, donc Haute-Paris, s'est lancée dans des gros projets en fait de développement de l'agroforesterie pour protéger ces zones de captage. Mais il n'y a pas que Haute-Paris, hein, il y a aussi des collectivités comme le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ou en Languedoc-Roussillon avec des petites communautés de communes. On travaille ensemble sur la protection de zones de captage. L'autre aspect, c'est voir comment, par l'agroforesterie, on peut enrichir le milieu et donc développer la vie biologique. Alors, par exemple, ça, c'est... Donc, on fait beaucoup de suivi. Hein, donc, on compare le témoin agricole sans arbre avec l'agroforesterie. Ça, c'est, par exemple, un suivi de carabes. C'est ce qu'on observe dans un témoin agricole assez classique. En fait, on a à peu près une ou deux espèces qui va représenter les trois quarts des espèces qu'on va piéger dans l'année. Alors qu'en agroforesterie, on a une diversité d'espèces beaucoup plus forte, que ce soit pour les carabes, les cirfes, pour d'autres espèces qu'on suit, et avec des espèces propres au milieu agricole, mais propres au milieu forestier, des espèces de lisières, etc. Donc on a un enrichissement du milieu qui est beaucoup plus fort. Par contre, on ne fait que comparer. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de voir est-ce que c'est efficace ou pas en termes de prédation, et donc est-ce qu'on peut aussi aménager l'espace pour... Ben, renforcer cette lutte biologique qu'on souhaite mettre en place sur la parcelle. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué et qui demande beaucoup de moyens. Alors, par exemple, là, on va peut-être mettre en place une expérience aujourd'hui. On va mettre des émetteurs sur le dos des carabes pour les suivre sur la parcelle, pour voir d'où ils viennent, où ils vont, quand ils s'arrêtent, et quand ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils mangent, par exemple. Et après, on fait des prélèvements de lymphe, on essaye de faire des analyses ADN. C'est, j'allais dire, un peu le bon côté des biotechnologies. Ça nous permet de dresser une carte du régime alimentaire des carabes, mais également de mieux le connaître dans son comportement pour après avoir des idées en termes d'aménagement de l'espace. Voilà. J'arrête sur les évaluations, sur la présentation un petit peu de ce qu'on fait. On pourrait en parler longtemps, mais je voudrais juste simplement terminer sur quelques idées qu'on avait au niveau de la recherche et puis sur les réglementations. Le problème de l'agroforesterie au niveau de la recherche, c'est déjà qu'on est très peu de monde. Alors effectivement, il y a le site de Restinclière, mais sur un site, on ne va pas faire grand-chose. Alors, on s'est un petit peu développé. Hein. Aujourd'hui, il y a la salle Beauvais qui a développé un second site en milieu tempéré. Il y a la bergerie de Villarceau, donc, qui est aujourd'hui le plus gros site expérimental en agroforesterie biologique. Et puis, au total, on a une centaine de parcelles pilotes chez des agriculteurs. Mais ceci dit, il n'y a qu'une seule équipe INRA avec un seul chercheur à temps plein. Donc vous voyez que pour travailler sur toutes ces composantes, c'est très très compliqué. Et puis il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. Et ce n'est pas simplement propre à l'agroforesterie, mais c'est aussi à l'agroécologie en général. C'est comment on peut financer une recherche sur le long terme. Parce que forcément, quand vous faites de la recherche en agroforesterie, pirate à Restinclière, ça fait 20 ans qu'on travaille grâce à une subvention du Conseil général, mais qui est très faible, de 30 000 euros par an. Mais au moins, ça fait 20 ans qu'on y travaille. Et chaque année, on découvre des choses différentes. Comment on peut travailler sur des appels à projets qui sont sur 3 ans ou même 5 ans, hein, dans le cadre de l'ANR, c'est quasiment mission impossible. Il y a un gaspillage de temps dans le montage de dossiers, dans les rapports de synthèse, qui est complètement inadapté en fait, hein, à ces thématiques de recherche. Le deuxième point, c'est les évaluations scientifiques des chercheurs qui travaillent en agroécologie et en agroforesterie. On leur demande de faire des publications sans arrêt. Des publications, deux publications par an, hein, je crois, quelque chose comme ça. Quand on fait des suivis de carabes sur une année en agroforesterie, quel type de résultat on va avoir? Vous recommencez l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après, les arbres grandissent, l'impact des arbres ne va pas être le même, le climat ne va pas être le même, et comment on peut produire des résultats voilà, d'un point de vue scientifique, si on, si on doit être rigoureux dans ce cadre de système, quoi. Je pense qu'il faut permettre à ces chercheurs de pouvoir faire des publications sur des durées beaucoup plus longues. Voilà, c'est première chose. Mais après, si on dépasse le cadre purement de la recherche conventionnelle classique, travailler sur une ou deux parcelles ou cinq parcelles avec dans des domaines INRA, c'est clairement pas suffisant pour nous. Lorsqu'on en discute avec les agriculteurs qui sont dans ce réseau base, ce sont des gens qui innovent tout le temps et qui prennent des risques et qui acquièrent énormément de résultats et qui les échangent entre eux. Et il y a un manque justement de relation entre la recherche et ces agriculteurs innovants. Et je pense qu'il faut imaginer des nouveaux systèmes pour mieux mettre en adéquation à la fois, mieux mettre en relation ces agriculteurs innovateurs et les chercheurs. On est encore, comme je dis ici, dans l'héritage un peu des années 50 de la recherche, où comme on a été vers l'artificialisation, forcément on était dans un système que l'agriculteur ne dominait pas, quoi, hein. Quand il fallait mettre telle matière active voilà, pour contrôler tel truc, l'agriculteur il était incapable de savoir ça. Donc effectivement il y avait une relation de dépendance avec la recherche ou le conseil technique. Et donc il y avait un peu celui qui conseillait et puis voilà celui qui savait et puis l'agriculteur qui devait appliquer pour avoir 5 quintaux de plus voilà après l'application de tel ou tel produit. Il faut casser un petit peu cette relation là pour en faire de véritables partenaires. Et l'agriculteur ne deviendra pas un chercheur, c'est pas son boulot, mais il sera un expérimentateur de terrain. Et donc on peut imaginer des dispositifs, hein, pourquoi pas. On en discutait avec les gens de base. Par exemple, on pourrait imaginer un crédit impôt recherche. Une société qui fait de l'innovation, de la recherche, elle a droit à un crédit impôt recherche. Pourquoi un agriculteur qui prend des risques dans l'innovation ne pourrait pas avoir droit à ce crédit impôt recherche? Après, on peut imaginer aussi une assurance. C'est-à-dire que l'agriculteur qui arrête de labourer et qui, pendant 5 ans, a des problèmes de rendement et qui, avant de trouver un petit peu la bonne combinaison, eh bien, on pourrait imaginer qu'il puisse bénéficier d'une assurance qui lui permette d'avoir le même niveau de rendement que sur les autres parcelles qui sont menées sur son exploitation. Le deuxième aspect, c'est les appels à projets. Dans les appels à projets, par exemple, type CASDAR, qui se portent sur l'innovation, justement, déjà pour des sociétés comme nous, c'est très difficile d'y participer, ou même dans les appels à projets européens, alors là, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, que ce soit les agriculteurs ou les petites sociétés donc de terrain, on pourrait amener des éléments en plus. Et je pense que les agriculteurs, notamment, on aurait tout à gagner à ce qu'ils puissent être éligibles à ces appels à projets. Et parce qu'on est encore dans la réflexion en fait des gens qui disent oui, mais au niveau des chambres ou autres, et puis après je vais bientôt arrêter, on travaille pour eux, mais c'est pas tellement travailler pour eux, c'est travailler ensemble sur ces projets-là. Voilà. Et puis après, bon, j'avais des petites idées sur la PAC. Je dirais simplement, pour terminer, en fait, quand on discutait sur la PAC entre le premier pilier et le deuxième pilier, il y avait un commissaire européen qui disait, de toute façon, quand on veut mettre de l'environnement au niveau de la politique agricole, on a deux possibilités. Soit on incite, soit on oblige les agriculteurs à adopter telle ou telle pratique. Mais on peut aussi simplifier et travailler en partenariat avec les agriculteurs. Nous, ce qu'on a obtenu en France, notamment au niveau de l'agroforesterie, c'est justement une simplification. Dans toutes les enquêtes qu'on a faites, on a à peu près 30% des agriculteurs qui sont prêts à planter des arbres et 30% contre. Et au milieu, on a des gens indécis. Et nous, on préfère travailler justement avec les gens qui ont envie et puis donc imaginer des propositions avec eux, donc avec ce qu'on appelle ici plutôt une mission de résultat avec les agriculteurs plutôt que de moyens. C'est-à-dire ne pas obliger les agriculteurs, par exemple, à mettre 3 ou 4 ou 5% en éléments topographiques ou naturels ou je sais pas quoi, alors que sur les 95% du reste de l'exploitation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On serait sur des contrats de résultats, donc par exemple pour avoir des taux de matière organique plus élevés, et puis après à l'agriculteur à choisir le système pour arriver à ce contrat-là. Et après je crois que tout le monde serait gagnant, y compris au niveau de l'environnement bien entendu, puisqu'on serait sur des systèmes agroécologiques. Voilà, donc et pareil pour les contrats ou les baux, on pourrait travailler sur les mêmes critères, quoi, hein. Enfin, dans le second pilier de la PAC, on pourrait, là c'est plus par rapport à l'agroforesterie, aujourd'hui il y a une mesure pour les haies, il y a une mesure pour les prévergés, il y a une mesure pour l'agroforesterie intraparcellaire. Nous, on milite vraiment pour avoir une mesure unique autour de l'arbre. C'est quelque chose qu'on défend notamment avec l'Association française des arbres et champêtres. Il y a eu aussi l'Association française d'agroforesterie et maintenant la Fédération européenne d'agroforesterie. Et on n'a pas vraiment été complètement entendu là dans les dernières discussions qui ont eu lieu au niveau de la PAC. Voilà, et donc je terminerai, c'est la dernière diapo, Juste simplement pour dire que ces agriculteurs innovateurs, ils ne sont pas forcément bien entendus, en fait, hein, dans toutes les négociations. Alors, effectivement, il y a des associations, il y a des syndicats, il y a des organismes, etc. Mais ces agriculteurs, et il y en a un ou deux qui devaient venir aujourd'hui, mais ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas tellement leur métier, en fait, de faire du lobbying. Par contre, ils ont quand même des idées. Et donc, l'idée, ce qu'on a proposé au ministère, c'est de créer un groupe de praticiens, de professionnels, avec quelqu'un du ministère qui puisse venir directement les voir sur leur exploitation ou dans leur région pour discuter et apporter en fait des éléments et pour ne pas avoir un peu simplement passer leur temps à être simplement pris en photo, mais aussi pour participer, être un peu plus impliqué dans l'histoire.
Voilà, merci. Alors, pour avoir une petite idée, Christian Dupras, quand je l'avais rencontré, m'avait dit donc qu'actuellement en France, il y a à peu près 500 paysans qui passent à l'agroforesterie tous les ans, c'est ça? Ça concerne 3000 hectares, à peu près, c'est ça? Les chiffres sont bons?
Oui, alors, en fait, pendant très longtemps, l'agroforesterie était interdite, entre guillemets, hein, si on voulait être éligible au premier pilier, au deuxième pilier. Et donc, jusqu'en 2001, ça a été le cas, et même, je dirais, jusqu'en 2006. Et en 2006, on a obtenu l'éligibilité donc pour moins de 50 arbres, et en 2010, c'est passé à moins de 200 arbres. Et en fait, depuis 2006, là, on a eu vraiment un décollage donc de l'agroforesterie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, hein, on essaye de recenser, mais on n'y arrive pas vraiment, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus, mais on est à peu près sur ces chiffres-là, effectivement.
Et si j'ai bien compris, l'un des problèmes majeurs, c'est quand même l'achat des arbres qui représente un coût, n'est-ce pas? Et qui, l'une des mesures peut-être envisagées, ce serait de soutenir les paysans quand ils veulent acquérir les arbres?
Alors, effectivement, alors, je dirais le prix, c'est peut-être pas si élevé que ça. Alors, ça dépend. En système céréalier, on tourne entre 12 et 15 euros de l'arbre, tout compris, hein, avec les frais de conception du dossier, le diagnostic et l'entretien pendant les 3 à 5 premières années. En système d'élevage, c'est plus compliqué parce qu'il faut mettre des cages de contention. Et donc là, on peut arriver à des chiffres beaucoup plus élevés, de 30 à 40 euros, par exemple, par arbre. Mais moi, d'expérience, en fait, les agriculteurs, eux, ce dont ils ont besoin, c'est de conseils. C'est-à-dire que pendant 50 ans, on les a habitués à travailler sans les arbres. Et dans les journées de formation qu'on fait, etc., très souvent, les agriculteurs nous disent « Mais qu'est-ce que je dois planter ?» Et souvent, je leur dis « Mais c'est plutôt à vous de me dire que ce que vous pouvez planter, parce que c'est votre environnement. » Et en fait, il y a eu un décrochage là, pendant 2-3 générations. Pour moi, le conseil est extrêmement important pour aider justement pour accompagner en fait les agriculteurs dans leur projet. Je crois que c'est plus psychologique, je dirais, que purement financier.